À vous qui découvrez cet enregistrement dès sa sortie ou bien plus tard, ceci n'est pas seulement un podcast, c'est une enquête. Une enquête sur l'avenir. Il est indéfini, on nous dit qu'il est incertain, et de plus en plus il nous paraît plein de menaces. Mais est-ce une fatalité ? Je m'appelle Ariane Cronel et j'ai décidé de découvrir pourquoi on nous a comme kidnappé notre avenir, et surtout, comment penser et avancer aujourd'hui pour faire exister des futurs qui nous réjouiront demain.
Enquête d'avenir. Le podcast.
Je dois vous avouer quelque chose. Je suis nulle en finance. Et ça vaut autant pour les miennes que pour ma compréhension de ce secteur dont Timothée Parik disait, dans l'épisode précédent, qu'il fallait supprimer les marchés. Car pour moi, fondamentalement, la finance, c'est ça.
Ce que je vois, c'est l'anxiété et la peur.
Des salariés licenciés par milliers.
Tout le monde se débarrassait de ses actions.
Et des marchés qui s'effondrent. Ce 15 septembre 2008, la planète financière panique.
Mon client me donne ses instructions. Il faut vendre. Et il me hurle au téléphone. Vendez-les, c'est tout. Vendez-les, on a un problème.
Le jour où Lehman Brothers a fait faillite, entraînant toute l'économie mondiale dans sa chute.
Il y a vraiment un problème dans la manière dont la finance est organisée.
Je m'appelle Jordan Belfort. L'année de mes 26 ans, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier, c'est qu'à 3 près, ça aurait fait 1 million par semaine.
Je vais vous dire qui est mon adversaire. C'est le monde de la finance.
Personne sait à l'avance si les actions vont monter ou descendre, aller de côté ou tourner en rond. Tu sais ce que c'est que la finance ?
Oui, la finance, c'est vendre, acheter...
Non, ça n'a rien à voir. La finance, c'est du baratin, du bluff.
Emporté par la crise des subprimes, ces crédits immobiliers toxiques, c'est la plus grande faillite de l'histoire américaine.
Il n'y a personne aux commandes de la finance, c'est une bête sans tête.
Le Nasdaq a décroché de près de 4%, celui des valeurs traditionnelles, le Dow Jones a perdu 2,5%.
Mais si vous avez vos 2 pence bien placés en banque...
150 ans de prison pour escroquerie, Bernard Madoff était devenu le symbole de la crise financière.
Greed is good. Now it seems it's legal.
Ce monde de la finance, il me semble nécessaire. On ne peut pas dire qu'il n'y a plus besoin de la finance, mais il faut essayer de recâbler la finance pour qu'elle aille vraiment dans le sens de l'intérêt général.
De pence bien placés qu'on aurait oublié d'investir là-dedans, oublié de confier à la danse, danse, danse les grosses, fidélité fiduciaire.
Soyez le bienvenu dans la joyeuse famille des capitalistes.
Pourtant, le secteur financier, par les sommes qu'il peut mobiliser, me semble un acteur incontournable de notre transition collective vers un autre modèle énergétique, économique, bref, vers un autre système. En plus, les pouvoirs publics, et plus particulièrement l'Union européenne, se sont lancés depuis 2019 dans un effort normatif inédit pour orienter les flux de capitaux vers les entreprises dont les efforts sont alignés avec l'accord de Paris. Green Deal, taxonomie, directive SRCD... Comme souvent, le droit est appelé à la rescousse pour orienter les actions.
Bonjour, vous êtes Madame Morin ? Oui, absolument. Je suis Madame Morin, la...
Ah, enchantée.
Je vais vous accompagner.
Alors, attendez, hop.
Mais qu'est-ce que ça produit comme effet concret ? Est-ce suffisant ? Et surtout, est-ce assez rapide ?
Je vous mets votre badge.
Oui, merci.
Pour essayer d'y voir plus clair, et aussi de dépasser mes propres préjugés sur le monde de la finance et ses excès, je suis allée dans une tour de la Défense, rencontrer Hassina Pi. Elle est Chief Sustainability Officer de la Société Générale.
Je vais vous montrer la salle.
Ouais, je suis sûre que ça ira très bien.
La réverbe de la salle amplifie de façon assez amusante ses explications sur l'utilité du secteur financier dans l'économie telle qu'elle existe aujourd'hui.
Ouais, c'est parfait.
Et sur les bouleversements qui modifient, peut-être, sa raison d'être.
À quoi ça sert une banque ? Ça, c'est une grande question. Alors, pour faire simple, les banques sont là pour alimenter l'économie avec des capitaux. Ça permet aux acteurs d'investir et de se développer. La banque ne génère pas ces capitaux, elle va les chercher sur les marchés ou auprès des investisseurs. Donc, en fait, nous sommes une sorte d'intermédiaire. entre ceux qui possèdent de l'argent et qui veulent le placer, l'investir, et ceux qui en ont besoin temporairement pour eux-mêmes investir dans des activités ou dans des biens. On va avoir des particuliers qui vont venir déposer spontanément, qui vont vouloir peut-être certains types d'investissements pour orienter leur épargne selon leur choix. On va aussi faire des campagnes de collecte pour aller chercher, pour aller motiver ces dépôts chez nous. Mais on va aussi nous-mêmes émettre sur les marchés où on va avoir des institutions qui vont venir, mais pour des montants bien plus conséquents, de façon plus structurée, investir dans des produits que nous avons où il y a toutes sortes de façons en réalité de collecter d'un côté de façon à pouvoir prêter de l'autre.
Bon, c'est là que je regrette amèrement d'avoir bâillé aux corneilles pendant mes cours de finance. Reprenons calmement. En tant qu'investisseur, je peux en principe décider vers quoi va être affecté l'argent que je prête. Quand je choisis de mettre mon argent dans un produit ou un véhicule financier, je dois être informé de la destination, à quoi va servir mon argent. C'est ce qu'Assina appelle l'orientation de l'épargne. Ce qu'elle évoque aussi, c'est qu'un produit financier peut être plus ou moins structuré. Cela signifie qu'il peut contenir différents types d'actifs comme des actions, des obligations, des swaps, et qu'il garantit tout ou partie du capital investi, ce qui limite les risques de perte.
Voilà, vous pouvez simplement déposer de l'argent, tout simplement, et avec un rendement plus ou moins intéressant. Mais vous pouvez aussi décider que vous voulez investir dans l'éducation, globalement dans les objectifs de développement durable, ou bien dans l'habitat, ou bien... voilà. Et donc là, vous êtes en face d'un intermédiaire financier qui peut avoir structuré des produits ou qui peut vous proposer des produits qui existent déjà. Et de cette façon, vous orientez votre épargne.
Pour orienter mon épargne, je dois donc regarder le type de projet financé, mais aussi le rendement qu'il propose. Mon argent, je ne le prête pas gratuitement, car si le projet dans lequel j'ai investi fait faillite, je ne récupérerai jamais ma mise. Et tant pis pour moi.
Rendez-les-moi ! Rendez-moi mes deux pains !
Dans la logique financière, la prise de risque est donc rémunérée via ce qu'on appelle le taux d'intérêt. On parle aussi du couple risque-rendement. Et on voit bien que l'investisseur se trouve devant un double choix. D'une part, la conformité d'un produit financier à ses souhaits d'orienter son épargne, et d'autre part, le rendement de ce produit, c'est-à-dire l'argent supplémentaire qu'il va rapporter comparé à la mise de départ. Si je m'en tiens à mes propres préjugés sur la finance, j'en déduis que pour se faire beaucoup d'argent, un investisseur a intérêt à choisir des produits financiers à haut rendement. Mais de quel type de produits s'agit-il ? Sont-ils proposés par les banques ou par d'autres intermédiaires ? Est-ce que ces produits financent directement les besoins des entreprises ? Oh, c'est là que de vieux souvenirs d'amphi refont surface.
Le marché primaire, c'est le marché du neuf. C'est le seul moment où la finance est en contact avec les entreprises, avec l'économie réelle, et c'est le seul moment où la finance finance vraiment les entreprises. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on dissocie la finance de l'économie réelle ? Sur un marché financier, il y a plein d'acheteurs, plein de vendeurs et plein de produits. On met les acheteurs d'un côté, les vendeurs de l'autre, et on essaye de faire correspondre leurs intérêts. Avant les ordinateurs, il fallait bien que tout le monde se rencontre à un endroit. Et là, on a l'impression que c'est une espèce de gros bordel complètement désorganisé. Un gros merdier avec plein de mecs qui se crient dessus. Eux, ce sont les traders. Ils interviennent uniquement dans le marché secondaire, c'est-à-dire dans le marché de l'occasion. En 2014 aux États-Unis, les entreprises se sont financées sur les marchés primaires grâce à des émissions d'actions à hauteur de 85 milliards de dollars. Sur la même année, le volume des échanges actions aux États-Unis entre les investisseurs, donc le marché secondaire, a lui été de 60 000 milliards de dollars. Et un truc aussi, c'est que le marché de la dette est beaucoup plus vaste que le marché action. Il brasse plus d'argent, il y a aussi plus de produits différents.
Mais nous voilà plongés ici dans le domaine réservé de la finance de marché, et ce n'est pas l'objet de l'épisode. Revenons donc plutôt au rôle de la banque comme intermédiaire permettant de financer l'économie réelle.
Non, ça c'est fondamental. Je pense qu'il faut voir qu'une banque, elle existe comme un financeur de l'économie dans laquelle elle se trouve. L'économie est directement affectée par les changements climatiques. Donc de toute façon, si c'est le sujet de l'économie, c'est le sujet de la banque. La banque va s'attacher à... Je pense qu'elle va faire trois choses très fortes sur le climat, sur la gestion du sujet climatique. D'un côté, elle va regarder l'impact sur ses propres risques. Vous avez évoqué des sécheresses, des clients qui vont payer une facture d'énergie largement supérieure à ce qu'ils faisaient avant, vont peut-être avoir des pertes. Donc immédiatement, les sujets climatiques ont un risque, emportent un risque du crédit, un risque à graver sur le portefeuille des banques. Ça, c'est le premier pilier. Ensuite, elles vont, et en parallèle d'ailleurs, elles vont veiller aux impacts de leurs activités sur le monde, en fait, sur les économies. Donc, très concrètement, elles font des analyses environnementales et sociales quand elles entrent dans des opérations. Okay. Elles regardent s'il y a des déplacements de population, elles regardent s'il y a des impacts sur la biodiversité, elles regardent, enfin, on a tout un tas de critères sur les opérations.
C'est assez récent, non ?
Non, alors, la plupart des... Oui, c'est ça. Par exemple, bon, chez nous, on a, à la Société Générale, on a signé les principes de l'Équateur en 2007.
Principes de l'Équateur. Jamais entendu parler de ça. Je descends illico aux archives et je découvre qu'il s'agit d'un référentiel de 10 principes s'adressant au secteur financier. Adopté volontairement par les institutions financières à partir de 2003, il vise la prise en compte des risques sociaux et environnementaux dans le cadre de financement de projets. Concrètement, une banque souscrivant aux principes de l'Équateur s'engage donc à ne fournir de financement et de prêts qu'aux projets répondant à ces principes. Leur quatrième révision, en 2019, a élargi leur champ d'application à de nouveaux produits financiers et renforcé certains critères d'évaluation des impacts environnementaux et sociaux des projets.
Et là, ça nous donnait déjà un certain nombre de choses à vérifier quand on entrait dans une opération, un projet donné. Et puis petit à petit, évidemment, ça s'est élargi aux grandes entreprises. Donc, un, la banque regarde les risques qu'elle prend à cause du climat. Deux, elle regarde tous les impacts qu'elle peut créer sur l'environnement. Et ça devient de plus en plus régulé, de plus en plus normé. Et ensuite, et surtout, elle va aider ses clients à transitionner.
Mais dans ce cas, il y a quand même quelque chose qui m'échappe. Comment expliquer, avec des principes qui semblent vertueux et qui ont été signés dès le début des années 2000, qu'on ait encore des banques françaises qui financent des activités désastreuses pour les écosystèmes ? Est-ce qu'il n'y a pas une grosse contradiction là ? Ou est-ce que la réalité des choses n'est-elle pas plus complexe et plus nuancée ?
Les investisseurs veulent transitionner eux aussi. Ils ont des portefeuilles, d'ailleurs ils sont très régulés, et petit à petit, ils sont en train de faire évoluer leur portefeuille. Il y en a même qui calculent la température de leur portefeuille.
Alors celle-là, je ne l'avais encore jamais entendue. Qu'on parle de l'épaisseur de mon portefeuille, soit. Mais sa température ?
Pour maintenir cette température, comme dans tout mécanisme, il faut un thermostat. You give me
fever. La fièvre, un mécanisme d'alerte. Caliente. Oh my God, the right.
Ici, au niveau de l'hypothalamus, c'est le thermostat de l'organisme.
Car c'est la température idéale nécessaire au bon fonctionnement de notre organisme.
Ce médicament contient du paracétamol. Attention au risque pour le foie en cas de surdosage.
La fièvre.
Ah, ok, rien à voir. On parle de température d'un portefeuille pour évaluer si les actifs financiers qu'il contient sont compatibles avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré.
En fait, vous pouvez imaginer si vous avez une activité de crédit qui est totalement verte, que des éoliennes, par exemple. Eh bien, vous pouvez imaginer l'impact de cette activité par rapport, tout le monde pense aux accords de Paris, au fait qu'il faut faire attention de respecter des trajectoires qui nous permettent de ne pas dépasser les fameux 1,5 degrés. Donc vous pouvez aussi considérer votre portefeuille qui est en euros, vous pouvez le considérer aussi en termes d'impact sur le climat. Donc les investisseurs sont complètement dans le sujet, ils sont très investis, ils ont commencé depuis longtemps. Et en tant que client, oui, on va les accompagner en leur fournissant des investissements, en leur fournissant des données, des conseils, etc. Mais plus fondamentalement et le plus difficile, ça va être d'accompagner les clients de l'économie réelle, les emprunteurs qui ont besoin de prendre des décisions fondamentales d'investissement dans un monde où on sait qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut faire vite. On sait à peu près où on veut atterrir si on s'est engagé à une certaine neutralité carbone en 2050, mais par où on passe ? C'est pas évident. Quelle est la technologie ? Pas évident. Donc en fait, on connaît le point d'arrivée, on sait qu'il faut courir. Le GPS n'est pas forcément disponible.
Les propos d'Assina font écho à ceux de Patrick Lagadec dans l'épisode 3. Pour piloter en incertitude, non seulement avoir une vision stratégique de l'objectif est indispensable, mais il faut aussi être capable d'identifier les étapes nécessaires à sa réalisation, afin d'agir concrètement dans la bonne direction dès à présent. Sans vision stratégique et sans feuille de route stabilisée, pas de sécurité des investissements. C'est compliqué de mettre des millions, voire des milliards sur la table pour des projets qui risquent d'être engloutis par les eaux ou dont on ignore s'ils seront encore autorisés dans 10 ou 15 ans,
alors que leur cycle de vie est de 20-25 ans. C'est bien joli, une usine hydroélectrique ou nucléaire. Mais si la sécheresse devenait chronique et que le débit des fleuves n'était plus suffisant pour une telle installation, ou si l'exploitation de l'eau pour autre chose que l'agriculture et l'alimentation était interdite par les pouvoirs publics d'ici, mettons, 2035.
Exactement. Donc en fait, vous venez de définir les deux grands risques climatiques pour un prêteur vis-à-vis de ses clients. C'est le risque physique, voilà, inondation, glissement de terrain, tout ça, et le risque de transition. Je pense que le business model d'une banque, c'est de prendre des risques. Tout type de risques. Mais ils sont tous mesurés. On a des modèles, on a des fonds propres en face, on a des coussins de confort en termes de capital. Enfin, c'est extrêmement organisé.
La crise financière de 2008 a effectivement eu pour conséquence d'augmenter fortement le niveau de transparence exigé des banques sur leurs investissements, ainsi que le niveau de fonds propres qu'un établissement financier doit avoir en caisse pour éponger d'éventuelles pertes. Ce que je me demande, c'est si la prise de conscience des enjeux climatiques entraîne à son tour une modification de la manière dont les banques s'acquittent de leur fonction de prêteur.
Je pense qu'il y a une évolution très intéressante ces dernières années. Petit à petit, on a commencé à tendre la main aux clients pour leur dire « Tiens, on pourrait t'accompagner et tu pourrais commencer à financer un certain nombre d'actifs divers ou bien tu pourrais t'engager à transformer ton mix pour le rendre plus vert. Donc nous, on te finance sur base de ces engagements. En réalité, tu exprimes vis-à-vis de toutes tes parties prenantes une volonté d'avancer dans la direction de la protection du climat. Ça a commencé par des opérations simples, des obligations vertes, c'est normé, on sait ce que ça finance, on sait ce que ça fait.
Vous avez dit obligations vertes ?
Appelez-moi Bond. Green Bond.
C'est le malin. Un green bond, c'est une obligation. Enfin, c'est un emprunt, si tu préfères. C'est un phénomène qui est très récent. Tu vois, ça date d'une dizaine d'années, c'est tout.
Les fonds que vous allez prêter à cette entreprise ne peuvent être utilisés que pour financer des actifs verts, selon une définition communément acceptée.
Comme construire un parc éolien ou faire de la recherche pour des moteurs moins polluants. L'isolation thermique, l'énergie renouvelable, tout ça, quoi.
Voilà. Donc ça, c'est la base. C'est qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce que je finance, comment s'appelle mon produit.
Crois-moi, il y a beaucoup de contrôles pour s'assurer que les émetteurs ne font pas du greenwashing.
Pour moi, ce qui est difficile, c'est pas tellement d'aller financer du vert, mais c'est d'aller progressivement aider les clients à investir et à faire leur transformation. Et tout, il ne faut pas penser que tout le monde va passer du marron au vert d'un seul coup. L'économie n'est pas prête à faire ça. Et donc, dans les produits financiers, on avait des obligations vertes, puis on a commencé à avoir des prêts ou des obligations avec des indicateurs de performance énergétique, de mix énergétique, de ce que vous voulez. Donc, ce n'était pas vert, mais c'était moins carboné que ça ne l'était. Et c'était sur base volontaire. Maintenant, les entreprises prennent aussi beaucoup d'engagements de décarbonation. Et petit à petit, on commence à voir un mouvement vers un monde un peu moins carboné. Simplement, c'est un chemin. Mais on voit bien que c'est pas en claquant des doigts qu'on passe de l'un à l'autre. Donc, c'est bien de savoir ce qui est vert. C'est encore plus important pour l'économie d'aller sur ce chemin. Certains appellent les différentes couleurs de l'olive, en fait. Hein, du marron au vert, et vous arrivez à le...
Olive verte ou noire, leur couleur dépend de la maturité du fruit.
Parfois violette, petite ou grosse, bien ronde ou plutôt allongée. Il existe plus d'une vingtaine de types d'olives.
Julie, la petite olive, rêvait de voyager, mais elle était captive d'un rameau d'olivier. Elle tannait ses copines à longueur de journée, avec les Philippines et Saint-Germain-des-Prés.
C'est bon, Julie, arrête de nous les briser. Tu sais bien que notre vie finira dans un panier. On est né pour faire de l'huile d'olive. C'est comme ça, c'est la nature et c'est très bon avec les endives.
Voilà, donc pour ça, on n'a pas toujours les bonnes définitions. On n'a pas toujours les bons instruments. Et là, il faut faire très attention, parce qu'on n'a pas de définition très claire de ce qui est une transition crédible, suffisamment rapide. C'est un sujet sectoriel. Pour une entreprise donnée, ça dépend de son point de départ. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde va converger sur ces trajectoires qui vont normalement nous permettre de ne pas dépasser ces 1,5 degrés.
Qu'est-ce qu'une transition crédible et suffisamment rapide ? Le nœud du problème est là. On revient aux besoins de vision stratégique et de feuille de route évoquées tout à l'heure. Et c'est loin d'être simple.
Non, c'est pas simple. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, la temporalité. Toutes les entreprises sont dans l'immédiat, dans le court terme. On a des comptes trimestriels. Et pourtant, il faut qu'on invente une trajectoire à 2050 et à 2030, évidemment, en rétro-pédalant. Et c'est exactement la question de cet avenir, en fait. Où va-t-on ? Et sortir de cette injonction du court terme pour imaginer ce que ça veut dire un monde décarboné.
Comment sortir du court terme ? Ça ne vous rappelle rien ? On en parlait avec Nicolas Mainviel dans l'épisode 1. Et on comprend bien avec Assinapi qu'il est extrêmement difficile à la fois de piloter une activité au quotidien et de transformer son business model à moyen ou long terme.
Si on ne fait pas ça, on part d'aujourd'hui, on fait des petites innovations marginales et on n'arrive pas bien loin. C'est un peu comme si Ford qui demandait à ses clients « qu'est-ce qu'il te faut ?» Les clients auraient répondu « au lieu d'avoir 2 chevaux, il m'en faudrait 4 pour aller plus vite. » Et voilà, il n'y aurait pas eu de voiture. On est exactement dans une situation où on ne peut pas tellement regarder ce qu'on sait faire, ce qu'on savait faire. Il faut qu'on invente un nouveau modèle. Mais ça, c'est très difficile de se projeter au trimestre, mais même à 3 ans, et d'inventer un nouveau business model. Les gens ne peuvent pas faire ça. Et donc, il faut aller chercher justement cet avenir. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement de vivre correctement avec une population dont on sait qu'elle sera en croissance en 2050, dans les limites de la planète? Si on regarde le bilan énergétique, ça veut dire très concrètement, eh bien, il faut changer un certain nombre de nos habitudes. Voilà. On ne dit pas qu'on va aller vivre dans des cavernes, on dit qu'il faut repenser la façon dont on investit, dont on a besoin ou pas d'acquérir, ou est-ce qu'on a besoin d'emprunter.
En une phrase, Assina vient de synthétiser tout le début de l'enquête. Pour se projeter à 2050 dans un monde décarboné, il faut réussir à sortir du court terme et comprendre qu'on joue à un autre jeu, pour reprendre les termes de Patrick Lagadec. Il faut aussi qu'on se pose la question des besoins que doit satisfaire une économie. Et ce n'est pas le PIB qui permet de répondre à cette question. Non seulement, comme Assina le souligne, cet avenir décarboné impose de changer un certain nombre de nos habitudes, mais il impose aussi de mettre en place de nouveaux indicateurs et de nouveaux étalons de valeur. Et pour cela, il faut savoir vers où on veut aller, vers quel type de société. Alors, est-ce que le secteur financier peut influer sur la direction prise ? Et surtout, comment peut-il contribuer suffisamment efficacement à une transition qui n'est même pas encore clairement définie ?
Il y a plusieurs choses. La première, je pense, c'est qu'on voit de plus en plus d'alliances. Les banques se sont réunies dans une alliance qui s'appelle Net Zero Banking Alliance, NZBA.
Net Zero Banking Alliance ? Il s'agit d'un programme lancé en avril 2021 dans le cadre de l'initiative financière du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Elle rassemblait 43 banques issues de 23 pays qui s'engagent à aligner leurs investissements et portefeuilles sur les objectifs zéro émission nette de CO2 d'ici 2050. Au total, la NZBA représente 28,5 trillions de dollars d'actifs.
Aujourd'hui, il y a plus de 100 banques. Elles représentent environ la moitié des actifs financés par les banques dans le monde. Bon, alors, il y a surtout des Américains et des Européens. Il nous manque une partie du globe. L'idée, et bon, il faut que ça tienne jusqu'au bout en termes de gouvernance, c'est de se mettre d'accord sur un minimum de standards méthodologiques.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de standards méthodologiques ? Bon, ça a l'air techno, mais en fait, c'est crucial. C'est se mettre d'accord entre acteurs financiers sur la manière dont on évalue les engagements verts des entreprises auxquelles on prête, sur la façon de mesurer très précisément les impacts de telle ou telle activité économique sur la planète. Car si chaque banque crée son propre référentiel pour évaluer, les entreprises risqueraient de se tourner vers la moins regardante pour se financer. Un standard commun simplifie les démarches et crée aussi de la confiance, à condition qu'il soit élaboré sérieusement dès le départ.
Ah, évidemment, il n'y aura pas une recette pour tous, tout dépend de qui vous êtes, dans quelle région, ce que vous avez comme client. Mais est-ce qu'on peut déjà avoir un minimum de repères méthodologiques communs ? Donc ça c'est en cours, ça c'est une chose. Ensuite, dans la réinvention d'une offre d'une banque, aujourd'hui, il y a une vraie métamorphose, je pense. Il y a plusieurs niveaux là-dedans. Le premier niveau, c'est qu'on a un certain nombre de clients qui n'ont pas les moyens de se former, de s'acculturer. Et donc, en tant qu'institution financière, un tiers de confiance, on pourrait imaginer de sortir des murs de la banque et d'aller voir certains clients comme des PME ou autres entités de petite taille et partager avec eux les formations qu'on a sur certains sujets. Créer autour d'eux un écosystème de services. Quelqu'un qui serait capable de leur faire le bilan carbone, le diagnostic, quelqu'un qui serait capable d'aller monter des panneaux solaires pour eux. Donc, sans oublier qui on est et ce qu'on fait, on peut aussi aider, dans notre compréhension de la transition énergétique, on peut aider nos clients à transitionner eux-mêmes. C'est la seule façon, parfois, de finir par financer un actif de la bonne couleur ou de la bonne technologie à la fin.
Un actif de la bonne couleur ? Bon, après la température, on fait comment pour connaître la couleur d'un portefeuille ?
Alors, on a plusieurs critères et on a d'abord des politiques sectorielles.
Okay.
Et elles dictent à tout le monde dans la banque ce qu'on peut faire ou pas faire. Par exemple, depuis la COP21, on ne finance plus de projets dédiés pour le charbon. Terminé. Ensuite, on prend des engagements de réduire l'intensité ou de réduire le bilan carbone de nos activités par secteur. Donc ça, c'est une autre façon de l'arrêter. Après, il y a le jugement, en fait, des personnes qui font les opérations. Elles savent où elles veulent aller avec leur portefeuille et ce qui est possible de faire ou pas faire.
J'avoue que je ne suis pas complètement satisfaite par cette explication. D'abord parce que j'ai du mal à croire qu'il suffise de créer un cadre pour que les capitaux s'orientent, comme par enchantement, vers des investissements verts. Ensuite, parce que les banques françaises continuent d'être accusées de financer des énergies fossiles. Et enfin, parce que je n'ai toujours pas compris si l'intérêt majeur que représentent les investissements de transition pour notre avenir collectif se reflétait bien dans les incitations financières. Concrètement, hein, est-ce qu'il est aujourd'hui financièrement motivant d'investir dans l'économie de demain ?
C'est difficile en fait, parce que on pourrait imaginer si le régulateur d'une banque lui dit pour tes actifs verts, tu peux mettre moins de capital en face, donc tu devras rémunérer moins de capital. Logiquement, la banque pourrait dire, bah, très bien, donc j'attends une moindre rémunération. Ça, c'est un aspect. De la même façon, quand une entreprise émet une obligation verte, l'investisseur de l'autre côté peut décider que bah, ça, c'est formidable, c'est un impact positif, donc je veux bien gagner moins. Mais dans la plupart des cas, il investit même pour compte de tiers et ils n'ont pas spécialement envie d'avoir moins. En revanche, ce qu'on voit, ça c'est la loi du marché, c'est que comme il y a un engouement très fort pour les produits d'épargne verts ou les obligations vertes, eh bien la loi de l'offre et la demande va faire que comme il y a une grosse sursouscription pour ces produits-là, ça va faire baisser un petit peu le prix. Mais c'est plus sur la loi du marché que parce qu'il y a moins de risques, ou bien parce que, voilà, aujourd'hui, mais ça pourrait évoluer, évidemment.
Bon, en gros, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas tellement pour les banques d'intérêt à proposer des actifs verts, en dehors du fait que leurs clients en veulent. En tout cas pour le moment. Comment faire pour muscler un peu cette incitation ?
The European Green Deal is Europe's new growth strategy. We have to act now.
Le Green Deal européen, c'est une stratégie pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici à 2030 en Europe.
This is why the Green Deal, as a growth strategy, remains our compass throughout the recovery.
C'est l'essence même du pacte vert européen.
No one will be left behind.
Le pacte vert européen est un programme visant à transformer notre économie.
14 propositions de loi sur le climat qui visent à rénover les logements, accélérer le développement des énergies renouvelables, appliquer le principe de pollueur-payeur à l'industrie ou encore mettre fin aux véhicules essence, diesel et hybride en Europe.
I want Europe to become the first climate neutral continent in the world by 2050.
This will mean new jobs, a cleaner environment and a better quality of life for people.
Moi, j'avais été très positivement surprise par la sortie du Green Deal européen, c'est fin 2019. Le texte est court, efficace et il expliquait très clairement. En fait, voilà, il faut qu'on aille à tel endroit, on a une décennie, ça va aller vite, ça veut dire que là, on a quelques années pour comprendre où on veut se diriger, comment on va le faire, faire les décisions d'investissement, les mettre en place et qui commencent à être dans le bon sens. Et puis après, ça va nous permettre donc d'entrer dans une nouvelle économie qui va nous permettre d'aller vers un monde moins carboné. Moi, j'avais trouvé que c'était un bon travail, clair et efficace. Et derrière, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont continué dans cette lancée et qui vont nécessairement orienter les capitaux, qui vont aussi, par exemple, demander aux banques, aux investisseurs, aux entreprises, un arsenal de communication extra-financière, d'exercice de transparence sur la couleur de leur portefeuille, ce qu'ils font, ce qu'ils font pas. Enfin, là, on est quand même dans un monde qui commence à très, très bien s'organiser. Est-ce que ça sera suffisant ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, il y a déjà des signaux encourageants. Je crois que l'Europe est très, très en avance là, sur le sujet. Mais c'est un problème sur un sujet global pour une planète. C'est un problème de ne pas avoir un chef de tout ça, en fait. C'est ça. Après, dire bah, ça ne sert à rien de faire ça parce que les autres ne font pas. Bon, je comprends que certains puissent penser ça, mais ça peut pas, on ne peut pas dire ça en réalité. Il faut juste qu'on avance. Ce qui est sûr, c'est que si nous, on ne le fait pas parce que les autres ne le font pas, c'est la catastrophe.
Si tout le monde attend pour agir que son voisin bouge le premier, on ira effectivement tous dans le mur en se donnant la main. Qu'en est-il donc des différents clients des banques? Sont-ils plutôt attentistes, plutôt moteurs?
Oui, moi je pense que toutes nos parties prenantes attendent de nous qu'on aille dans cette direction de la décarbonation. Et là, on parle beaucoup de climat, mais en réalité, il y a aussi une forte attente sur le côté social. Ouais. Quel rôle jouez-vous? Est-ce qu'on peut envisager une mobilité durable et inclusive? Donc, il ne faut pas juste penser à cette histoire de climat, il faut que cette transition soit juste. C'est aussi un thème de l'Europe. Ce n'est pas si facile que ça. Et une transition juste, pour reprendre mon exemple de l'automobile, ce n'est pas j'ai une voiture thermique, je la transforme en voiture électrique, comme elle coûte plus cher, il faut subventionner. Là, on ne s'en sort pas. Il faut repenser les usages. Et quand on repense les usages ou quand on lance un nouveau produit, il faudrait avoir une sorte de radar avec les différents aspects, y compris les aspects d'inclusion et les aspects d'accessibilité de l'offre, du service, du produit aux différentes populations. Voilà, c'est un sujet holistique en fait. Et au-delà, je pense que les changements qui sont à attendre sont d'ordre différent en fait. C'est pas simplement passer du marron au vert et donc financer du marron contre du vert, mais c'est comment, encore une fois, vivre dans les limites de cette planète. Et donc, en offrant à chacun le service ou l'accès aux biens fondamentaux dont il a besoin, comment faire avec le modèle actuel? Ça marche pas. On peut pas, on prend l'exemple de la voiture, on peut pas remplacer une voiture thermique par une voiture électrique. Il y a un problème de ressources, il y a un problème de métaux, il y a tout un sujet. Il y a un problème d'aller brancher sur le réseau électrique, je ne sais pas combien de voitures, enfin voilà. Donc dans le fond, c'est comme si on nous demandait aujourd'hui d'être un peu plus raisonnable. Bon. Donc ça veut dire, de quoi est-ce qu'on a besoin finalement? Est-ce qu'on a besoin chacun de posséder une voiture, grosse voiture en plus, juste pour se promener ou pas, ou pour nous acheminer à 5 km ou à 10 km au travail, ou est-ce qu'on a besoin de se déplacer? Et donc c'est là où les bouleversements peuvent arriver pour les banques, c'est qu'on pourrait imaginer qu'on passe dans une économie de l'usage et pas de la propriété. Donc ça veut dire que pour nous, on va accélérer l'offre de leasing automobile. Nous serions les propriétaires et pas nos clients. Nous sommes propriétaires, nous finançons et le client nous paye un loyer. Et puis petit à petit, évidemment, on passe de plus en plus à des véhicules électriques, mais surtout, on réfléchit à des offres multimodales de déplacement. Donc, vous pourriez avoir accès à une carte comme votre passe Navigo, où il y a à la fois la trottinette, le vélo électrique, le véhicule, avoir des services plus développés d'autopartage. Voilà. Partant du principe qu'un véhicule qui reste 95% de son temps au garage, multiplié par le nombre de personnes sur Terre, ben, ce n'est pas spécialement nécessaire. Ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le digital, on a vu se développer un certain nombre de morceaux de cette économie qui sera l'économie en fait, qui fonctionne en utilisant moins de ressources de la planète. Enfin, on est là déjà pour des raisons économiques, mais aussi parce que les gens cherchent du sens et puis ils sont raisonnables, ils pensent à l'impact en fait.
Mais alors, si une majorité d'entre nous sommes raisonnables et pensons à l'impact de nos comportements sur la planète, pourquoi les choses ne changent-elles pas plus vite?
Ce qui peut faire obstacle, c'est justement l'absence aujourd'hui, dans certains secteurs, d'une technologie qui est la bonne technologie. Ou bien la difficulté d'engager une entreprise dans un investissement qui aurait un rendement sur 10 ans, par exemple, alors qu'on n'est pas complètement sûr que, quelques années plus tard, autre chose de plus percutant viendrait. Et ça, c'est une difficulté. L'autre difficulté, c'est qu'avant, les entreprises évoluaient dans leur secteur de prédilection. Et aujourd'hui, elles se trouvent prises dans un écosystème qui est différent. Par exemple, si on prend le transport maritime, ben voilà, il y a les chantiers navals, et puis il y a les armateurs, et puis il y a les ports dans lesquels ils vont, et puis il y a ceux qui mettent du fioul lourd dans les ports pour que les bateaux puissent s'alimenter quand ils s'arrêtent. Aujourd'hui, si l'armateur veut passer à une propulsion au gaz ou une propulsion plus tard à l'hydrogène ou autre, il ne le fera que, premièrement, si le chantier naval part sur des productions de ces bateaux pérennes. On n'est pas en train d'inventer un espèce de prototype dont on ne saura plus quoi faire, dont la valeur n'est pas assurée à la revente. Voilà. Ensuite, il faut s'assurer qu'il y aura bien du bunkering. Donc, par exemple, si je passe au gaz, eh bien, est-ce que dans tous les ports dans lesquels je m'arrête, quand je fais le tour du monde, parce que c'est des bateaux qui voyagent beaucoup, est-ce qu'il y aura bien ce refueling ? Et donc, du coup, on est là sur des clients qui vont se dire, je ne ferai ce changement technologique, qui est un risque, hein, que si je suis sûr que c'est un vrai trend et que les autres font pareil et que mes fournisseurs vont m'alimenter. Et en plus, si je suis capable de trouver dans les infrastructures portuaires ce qu'il faut. Et là, du coup, les infrastructures portuaires, est-ce qu'elles vont prendre ce risque ou pas de développement? Ben, elles vont se retourner vers les énergéticiens qui vont ou pas venir acheminer jusque-là ou produire de l'électricité verte pour aller brancher un bateau. Il y a tout, en fait, on est là sur des chaînes de valeur qui impactent plusieurs secteurs. Vous êtes un constructeur de voitures thermiques, vous avez une vraie compétence avec tout le monde qui est organisé autour de vous pour ça. Vous passez à l'électrique, vous dites le gros sujet là, c'est la batterie. Est-ce que moi, je vais investir? Combien c'est une usine de batterie? C'est des milliards d'investissements. Qui va le faire? Bon, quelqu'un va venir se spécialiser dans la construction de batteries, donc une méga usine de batteries. Quel est son sujet? Le sujet, c'est pas vraiment la voiture. Le sujet, c'est comment je m'approvisionne en métal. De façon sûre, pérenne, à un prix que je connais, qui va m'approvisionner? Et qui est stable, et si possible, pas complètement dans les mains d'un seul acteur. Voilà, donc ça, c'est l'input dans mon usine de batteries. Et puis l'output de l'autre côté, c'est est-ce que j'ai des constructeurs de voitures qui sont fiables, qui seront là encore dans je ne sais pas combien de temps, qui vont m'acheter des bébés batteries, etc. Et puis à côté de ça, vous avez pour le constructeur, je vais me lancer dans la voiture électrique, mais à condition qu'on me l'achète. Et on me l'achètera s'il y a de l'infrastructure. Donc là, en fait, on est dans une sorte de tango à trois. Bon, ça n'existe pas, mais avec les entreprises donc, et les banques qui les financent, les États, parce que les États doivent mettre les infrastructures, doivent faire en sorte que tout fonctionne, et puis surtout les consommateurs. C'est eux qui, à la fin, le roi dans l'histoire, c'est le client, c'est lui qui décide.
C'est peut-être effectivement le client qui décide, mais encore faudrait-il qu'il ait le choix. Si je reprends l'exemple des voitures électriques, qui va investir pour installer des bornes de recharge le long des autoroutes et construire les réseaux pour alimenter ces bornes?
De qui est-ce la mission de s'aventurer, en fait, dans des nouvelles technologies? C'est pas forcément le secteur privé, en fait.
Sans doute. Mais y a-t-il suffisamment d'argent disponible pour réaliser ces trilliards d'investissements?
Moi, je pense qu'il y a de l'argent.
Oh, bah, ça, c'est simple. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de mi. Vous croyez quoi? Que ça se trouve dans le cul des poules, le fric?
Dans le sens, il y a des investisseurs qui ont envie d'investir dans ce nouvel univers. Maintenant, il faut qu'ils trouvent des produits ou des actifs à financer. Mais il y a encore beaucoup plus d'argent qu'il n'y a d'actifs verts. Donc c'est là où on entre dans l'intermédiaire, la transition. Et puis, après, c'est une question de combien ça va coûter, combien ça va donner comme rendement, et puis quel risque est prêt à prendre l'investisseur, évidemment. Donc moi, ma perception, c'est que le sujet n'est pas tellement de trouver des financements. Le sujet, c'est d'avoir le bon investissement qui va dans le bon sens sur la technologie sur laquelle les gens sont à l'aise. Et là, normalement, on trouve les investissements. Et pour faire ça, cette nouvelle chimie-là, il faut nécessairement des alliances. Il faut des alliances. Par exemple, si je reprends ma chaîne de l'électromobilité, qui va financer l'usine de batterie ? Pas forcément le constructeur automobile, c'est pas son cœur de métier. Et puis, il n'avait pas prévu de faire un investissement pareil. Alors, certains vont le faire, bien sûr, certains le font d'ailleurs. Mais on peut aussi aller chercher des acteurs comme des investisseurs, des fonds d'investissement, des gens qui ont l'habitude d'investir dans des infrastructures ou dans des grands projets et qui ont envie de le faire. Donc en fait, on a l'alliance des différents acteurs de la chaîne qui vont s'aider mutuellement, puisque l'un dit à l'autre qu'il va lui sécuriser ses achats ou ses fournitures de telle façon, et le troisième dit qu'il va s'occuper de tout ce qui est recyclage, parce qu'ils vont travailler ensemble sur les nouveaux recyclages et l'économie circulaire. Et en fait, avec ces alliances, on est plus fort, c'est de l'intelligence collective industrielle et financière, puisqu'on peut apporter les financements, et donc on peut accélérer le mouvement. On peut prendre ces risques ensemble parce qu'on se donne des gages, en fait.
Nous voilà donc devant l'éternelle question de l'œuf et de la poule. Est-ce les projets verts qui doivent venir en premier, ou la capacité et l'appétence des investisseurs pour ce type de projet? Assina semble dire qu'il y a aujourd'hui plus de capacités de financement que de projets réellement verts. Et je n'ai pas les moyens de vérifier cette information. Mais ce que je retiens, c'est que les deux vont nécessairement de pair. Sans investisseurs, pas de projet. Mais sans projet, l'argent ira ailleurs que sur du vert.
Oui, on nage dans les injonctions contradictoires. On a d'un côté des parties prenantes qui vont nous pousser vers un spectre plus vert de l'économie, et de l'autre côté, des États comme celui du Texas qui ont à perdre, puisqu'ils ont une économie qui est aussi là, enfin qui compte sur les hydrocarbures, et donc qui se disent je ne vais pas confier par exemple mes fonds de pension à des banques qui disent par ailleurs qu'elles sont toutes vertes et qu'elles ne vont plus aider mon industrie locale. Donc on est en fait dans les tensions de la période de transition. Et c'est ce spectre-là des couleurs olives qui nous amène là. Ce serait plus simple de passer directement du marron au vert. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc on a toutes ces injonctions. De la même façon, aujourd'hui, on est en pleine crise énergétique, on a une guerre, on est dans une situation difficile après des années de Covid. La préoccupation de beaucoup d'entreprises, c'est de trouver de l'énergie à un prix acceptable. La même chose pour les consommateurs finaux, etc.
Une flambée des prix impossible à absorber pour l'entreprise rachetée cet automne.
2021, c'était 80 000 euros d'électricité. Et la dernière offre que j'ai eue, ça s'élevait à 800 000 euros.
Gaz et électricité sont devenus trop chers. Il y a urgence.
C'est comme si un ménage français qui consomme 100 euros par mois, du jour au lendemain, c'est 1 000 euros par mois d'électricité. C'est inconcevable.
Donc, quand les banques, qui sont pressées par leur alliance et leurs engagements, annoncent les unes derrière les autres des engagements plus forts dans la décarbonation, qui peuvent vouloir dire qu'elles vont cesser leur support à tel secteur des énergies carbonées, on peut aussi nous dire « mais votre rôle, c'est de financer l'économie ». Or, l'économie, elle a besoin de cette énergie. Donc la question, c'est est-ce que les banques sont là pour financer l'économie telle qu'elle est, et donc on est juste un vecteur, ou bien est-ce que les banques sont, d'une certaine manière, chargées d'une mission, un peu comme un gendarme, pour aider à aligner cette économie à 1,5 degré? C'est une vraie question. La réalité, c'est qu'on est plus un catalyseur vers une économie moins carbonée, justement, plus qu'un gendarme lui-même. En fait, ça servirait à rien d'assécher complètement l'économie si ce n'est pas accompagné d'une transition vers des usages moins carbonés, d'une transition vers une économie globalement plus alignée avec ce que la planète peut offrir, en fait. C'est ça le sujet.
Nous y voilà, coincés entre les impératifs du présent et ceux de l'avenir, qui semblent irréconciliables. Comment financer la transition vers la décarbonation quand l'économie telle qu'elle fonctionne au quotidien a besoin d'énergie carbonée? Comment adapter l'appareil productif, les comportements de consommation, les compétences métiers des individus? Comment amortir le choc pour ceux dont l'emploi est amené à disparaître? Moi, j'ai tendance à penser qu'un choc est moins rude quand il est étalé dans le temps. Et le problème, c'est qu'on n'en a pas du temps.
Il faut quand même assez rapidement qu'on réduise le montant d'émissions de CO2 dans l'air. Ça, c'est quand même ce que les scientifiques nous ont claironné à juste titre. Donc, il faut arrêter de se dire « ah ben, j'avais pas bien compris ». Il y a eu beaucoup d'engagements d'entreprises. C'est sûr, elles vont améliorer le tir et elles vont aller dans le sens plus vertueux, même si aujourd'hui, beaucoup sont taxés de communication ou autre. Mais la réalité, c'est qu'il y a un vrai mouvement qui s'est déclenché. Et même si les gens n'étaient pas sérieux, il y a les étudiants, leurs enfants, les consommateurs, les régulateurs, enfin toutes les parties prenantes, de toute façon, qui sont là pour demander des comptes et pour souhaiter que les choses aillent dans le bon sens. Donc quand on voit la génération suivante, la génération de nos enfants, j'ai beaucoup d'espoir parce qu'alors eux, sans qu'on leur ait expliqué, ils ont déjà complètement changé finalement leur qu'est-ce qui les rend heureuses et quoi leur récit? Ben, c'est pas le même que le mien. Hein. Ben, quand on était plus jeune, chez nous, c'était il fallait avoir un bon job, réussir, acquérir une maison, acquérir un appartement, une voiture, faire ci, faire ça. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de jeunes qui ne passent pas spécialement le permis parce qu'ils n'en ont pas besoin, qui partent en blablacar avec d'autres, qui font la conversation avec des inconnus dans une voiture et tout le monde est content, qui partent aussi louer des appartements qui ne sont pas les leurs. Bref, ils ont complètement intégré, avant même qu'on leur en parle, cette idée d'économie de l'usage qui maximise l'utilisation des biens, en fait. C'est pour ça qu'en quête d'avenir, je pense que c'est fondamental. C'est-à-dire, il faut d'abord qu'on se projette vers cet objectif commun, parce que mine de rien, hein, il existe des scénarios, voilà, on peut s'en inspirer, il n'y a pas de boule de cristal, mais enfin, il y a quand même des scénarios voilà, scientifiques, concrets. En France, on a la chance d'avoir eu le Shift Project, en fait, qui vous montre, secteur par secteur, une idée, voilà, ce n'est qu'une façon de faire, enfin, et qui vous dit aussi, en termes d'évolution industrielle, mais en termes d'évolution de l'emploi, voilà ce qui va se passer. Donc, s'il y a plus tant d'emplois de telle façon, moins tant d'emplois de telle façon, bon, est-ce que ce sont les mêmes personnes, pas les mêmes personnes, les compétences? On a quand même un certain nombre d'éléments sur lesquels on peut travailler. Mais d'abord, il faut aller comprendre ce qui va se passer potentiellement après pour revenir vers maintenant et s'organiser. Mais organiser l'éducation, est-ce qu'il faut qu'on pousse des gens vers des métiers de col blanc pour gérer une globalisation qui sera plus trop là ou moins là? Ou est-ce qu'on arrête de faire comme ça et on dit aux gens, mais en fait, c'est très valorisé aujourd'hui d'être un bricoleur, d'ouvrir un Ripper Café et de se lancer dans l'économie circulaire. Voilà. Et ça, ça a beaucoup de valeur, mais il faut qu'on reparte du début. Tu auras réussi, mon fils, si quoi? Et tu seras heureux si quoi?
Bienvenue dans la zone de haute pression imaginaire, comme dirait le sociologue Michel Maffesoli. Les référentiels changent, la réussite ne s'apprécie plus à l'aune des mêmes critères. Être heureux sera-t-il bientôt le contraire de posséder?
Il y en a quand même un peu de pouvoir dans la mesure où si toutes les banques décident de ne plus financer les projets charbon, par exemple, voilà, petit à petit, il n'y en aura plus. Il faut que le consommateur ait suffisamment d'informations sur toutes les externalités négatives. Et de la même façon, quand on produit de la meilleure façon, avec les meilleurs standards, ça va coûter plus cher. Donc en effet, si on se laisse déborder par des articles qui sont en concurrence déloyale sur ce plan-là, c'est un problème. Sauf si le consommateur, s'il n'y a pas de taxe, mais le consommateur dit « Non, moi je suis très bien informé, ça ne me va pas, je suis prêt à payer plus. » Mais là, et on revient dans une sorte d'acculturation, d'éducation. Mais tout ça, ça s'apprend en fait.
Oui, ça s'apprend. C'est un changement profond et comme on l'a vu, perdre l'habitude de tout avoir tout de suite et pour pas cher, eh bien ça ne se fera pas du jour au lendemain. Alors, Assina, si vous aviez une baguette magique pour accélérer les choses, vous l'utiliseriez comment?
C'est une bonne question. Ça, j'en sais rien, qu'est-ce que je ferais? Il faut que je réfléchisse un petit peu, là.
Il y aura 3 minutes.
Moi, je pense qu'on a tous été sensibilisés sur les aspects scientifiques. Les rapports du GIEC, les rapports de l'Agence internationale de l'énergie... ça devient assez évident pour nous. Mais maintenant, la deuxième phase de cette même médaille, c'est le GIECO, c'est l'aspect comportemental, en fait. Cette histoire de récit, cette histoire de what brings you joy, qu'est-ce qui fait que vous êtes heureux, qu'est-ce qui fait que vous avez réussi, pour moi, c'est la clé. Si j'avais une baguette magique, je switcherais, en fait, dans cet imaginaire collectif, ce qu'est le futur désirable. Et surtout comprendre que on n'est pas en train de dire qu'on va renoncer à tout et que ça va être un monde en noir et blanc, qu'on va renoncer à la couleur en passant de 10 tonnes d'empreintes de CO2 par personne par an en France à 2 tonnes en 2050.
Relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish.
C'est pas ça. C'est qu'en réalité, on peut aussi trouver du plaisir avec des loisirs décarbonés. Il faudrait faire des guides de loisirs décarbonés, en fait. Il y en a plein. On peut trouver du plaisir à retrouver de la convivialité, à passer du temps avec ses voisins. Et puis, dans le fond, ce qui apporte du plaisir et du bonheur aux gens, là, en réalité, hein, c'est pas tellement de posséder, contrairement à ce qu'ils pensent, mais c'est ce qu'ils font pour les autres. C'est quand ils s'engagent dans des grandes causes. C'est un vrai sujet. Donc voilà ma baguette magique. J'avais lu un bouquin d'un de mes pairs, là, qui dit, je crois que c'est lui qui disait, enfin, on s'est un peu perdu avec cette société. En fait, on s'est mis à acheter des tonnes de choses dont on n'a pas besoin, avec de l'argent qu'on n'avait pas, pour faire du show-off ou se frimer devant des gens qui n'en avaient rien à faire. C'est complètement ça.
Mais c'est complètement crétin.
Ben oui, c'est complètement crétin. Mais une fois qu'on l'a dit, ça ne résout pas le problème. Ce qui est sûr, c'est que nous arrivons à une situation dans laquelle les choses à acheter vont décroître, et avec elles, l'argent dont nous aurons besoin. Le problème, c'est que la transition risque d'être rude, sauf à en organiser au minimum le pilotage. On l'a vu avec Hassina, l'un des sujets clés pour l'avenir, c'est la transition énergétique et son financement. Car sans énergie, plus d'activité économique, et sans activité économique, plus de biens de consommation. Pour le prochain épisode, il va donc falloir convoquer la fée électricité.
Enquête d'avenir.
L'enquête continue. Vous pouvez retrouver tous les épisodes, leurs sources, les bios des témoins et bien d'autres choses encore sur le site internet www.enquetedavenir.com.